L'oncle Sam et l'oncle Tom, frères ennemis. Malgré leur grande prospérité et cet air d'aller droit à la fortune en bousculant tout sur leur passage, les États-Unis ne sont pas moins travaillés que la vieille Europe par toutes sortes de questions angoissantes. Question des trusts, question des étrangers, question jaune, question noire, etc. L'une des plus graves est incontestablement la question des nègres, cause de désordre continuel. Voici l'histoire. Un Américain nous contait cet apologue. Quand Dieu créa les hommes de toutes couleurs, jaunes et rouges et blancs et noirs, il s'était entouré d'une quantité de vases où il puisait successivement, et un peu à la fortune du pot, les qualités et les défauts de toutes sortes. À chaque homme terminé, il coulait dans le crâne une bonne cuillerée de cervelle, si bien que lorsqu'il en fut au nègre, il n'y avait plus rien dans le pot à l'esprit. Et le Créateur était pressé, il a laissé cette tête vide. Car c'est la vie générale des Américains, les nègres ne manquent pas de qualité. Ils ont peut-être même plus de qualité que de défauts. Mais ce sont des esservelés, des enfants, des êtres incapables de réfléchir, de suivre une ligne de conduite. Aussi, n'est-ce pas sans inquiétude que l'oncle Sam voit les Noirs se reproduire avec une extrême fécondité et la population colorée, comme il dit, augmenter dans une proportion beaucoup plus forte que la blanche. On estime qu'il y a dans le monde entier 70 millions de nègres proprement dit. Aux États-Unis seulement, les derniers recensements ont compté 8 840 000 sur 76 millions d'habitants. Or, en 1880, il n'y en avait que 6 580 000. On voit qu'il y a donc une question nègre aux États-Unis, question vitale selon les sociologues yankees, pour qui, dans un délai relativement court, tout le territoire de l'Union doit fatalement se trouver acquis aux Noirs, lesquels auront refoulé devant eux et rejeté à la mer les Blancs réduits par le nombre à l'impuissance. En 1865, quand fut prononcée au Congrès américain cette émancipation des esclaves conquis à force de sang versé pour les États du Nord sur ceux du Sud, en une guerre terrible, peut-être déchaînée par le livre larmoyant de la tendre Madame Becher Stowe, La case de l'oncle Tom, ce fut à Washington une incroyable explosion d'enthousiasme. Tous ces excellents Américains vociféraient en proie à la plus grande exaltation de générosité. Ils tombaient dans les bras les uns des autres, pleuraient à chaudes larmes. Ils ont quelque peu changé depuis. Les Yankees se plaisent aux solutions radicales et simplistes. De ces êtres misérables ayant toujours vécu en tutelle, foyés comme des chiens, quand ils n'avaient pu se retenir de voler quelques tentantes friandises, on fit d'emblée des citoyens avec le droit au vote et à l'éligibilité. Tous les hommes sont frères, et les frères ont des droits égaux, n'est-ce pas? Et les États-Unis se trouvèrent, au bout d'un rien de temps, transformés en l'une des plus étonnantes pétrolières qui se soit jamais agitée sous le soleil. Partout où ils se trouvèrent en majorité, les joyeux fils de Cham, découvrant en un bon rire naïf ces superbes dents blanches dont s'arment leurs solides appétits, s'abandonnèrent sans vain scrupule, avec la plus tranquille impudeur, à toutes les exactions, à tous les abus. Toutes les fonctions publiques arrachées aux mains des Blancs passèrent à celles des Noirs. Ce fut une corruption effrénée. Tout fut à l'encan. Les deniers publics disparaissaient prestigieusement au gousset de ces gilets rouges ou verts, tant affectionnés par la coquetterie des nègres, pour être bientôt convertis en épingles de diamants arborées sur des cravates voyantes à faire pleurer. Des magistrats, couleur d'ébène, se mirent à considérer systématiquement la noirceur du visage comme l'indice nécessaire et suffisant de la blancheur de conscience. Les États-Unis ne se tirèrent de ce mauvais pas qu'en notant en 1875 le vote aux Noirs. ceux-ci accueillirent ce retrait de leur droit d'une embauche si sereine qu'ils en avaient reçu l'octroi. Un aperçu rapide du caractère et des mœurs des Noirs. On dira peut-être que la conduite des bons nègres n'était pas si différente de celle qu'avaient tenue leurs frères blancs à leur place, mais tout de même, il y a la manière, il y a la mesure. En tout cas, quel usage eussiez-vous voulu que fissent de cette liberté, de cette puissance soudaine, des gens dont pas un sur cent ne savait lire, dont presque aucun ne savait écrire? Il n'était pas si sot, ce vieux nègre, qui, l'abolition de l'esclavage proclamée, quand on lui criait à ses frères « Allez, vous êtes libres, vous êtes désormais des hommes et des citoyens !» se mit à pleurer en gémissant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons devenir alors ?» En fait, ils ne sont rien devenus. Ils sont restés ce qu'ils étaient, des sortes d'enfants et des esclaves. On connaît l'histoire de ce conducteur d'omnibus. Désœuvré en son jour de sortie, il n'avait rien trouvé de mieux que de refaire à pied le trajet qu'il avait coutume d'accomplir sur son omnibus au long des jours ouvrables. De même, selon un mot célèbre, le nègre continue libre, le nègre esclave. Dans les districts agricoles, il est resté l'ouvrier inégal qu'il était avant l'émancipation, tantôt travaillant à force, tantôt incoerciblement paresseux, n'obéissant guère qu'à la crainte, étrangement semblable dans ses mœurs et dans sa psychologie à son ancêtre très proche, le nègre d'Afrique. Parmi ceux-là, beaucoup, séduits par les pratiques grossières de la religion baptiste, s'y sont réunis, et c'est un spectacle singulier, à la fois comique et impressionnant, que donnent les services célébrés pour leurs noirs troupeaux par des pasteurs baptistes souvent noirs eux-mêmes. Il est assez peu différent de celui qu'offrent les cérémonies fétichistes décrites par les explorateurs du Soudan et du Congo. On pleure, on prie fervemment, mais avec une exagération passionnée et de mimique, et peu à peu, toute l'assemblée se retrouve portée à un degré extraordinaire de surexcitation. Et ce sont des gémissements, des sanglots, des coups sur la poitrine, et des contorsions telles que le spectateur blanc ne peut tenir à ce vacarme, à cette scène de véritable aliénation. Dans les villes, toutes les besognes basses ont été peu à peu réservées aux nègres. Tout ce qui est lavage, curage, domesticité, et que repousse l'orgueil un peu ridicule des Blancs d'Amérique, semble fort bien convenir à l'homme noir. Ce sont les nègres qui lavent les carreaux des boutiques, qui nettoient le dallage des gares, qui recueillent les ordures, et aussi qui font la cuisine, car ce sont de merveilleux cuisiniers. Et ces frères, pour lesquels on a mis naguère l'Amérique à feu et à sang, on ne saurait dire dans quel mépris ils sont tombés, et tout particulièrement au regard des citoyens du Nord, artisans de leur liberté. On ne serre pas la main à un nègre, et on sait le scandale que ce fut à travers l'Union, le jour abhorré où le président Roosevelt reçut à la Maison-Blanche et à sa table un noir, que tous les Américains cependant s'accordent pourtant à juger un homme remarquable et profondément estimable, M. Booker Washington. Si instruit, si bien élevé qu'il soit, un nègre est frappé d'ostracisme, tenu à l'écart, comme un pestiféré. Des propriétaires de bars refusent journellement de recevoir, de servir des hommes de couleur. Il y a des quartiers de nègres, comme jadis il y eut dans l'Europe des ghettos. Il y a des églises pour nègres, des théâtres et des concerts pour nègres. En chemin de fer et en tramway, il y a des compartiments pour nègres, portant la souscription « For colored patrons only », pour voyageurs de couleur seulement. Compartiments sales et mal tenus, dont les coussins éventrés vomissent leurs crins. Un nègre monte-t-il dans un compartiment de blanc? Entre-t-il dans un concert de blanc? Ou bien, on le prie de s'en aller? Ou bien... Les blancs qui sont là se lèvent et cèdent la place avec dégoût. Naturellement, ces choses se passent plutôt dans les villes de province, dans les petits centres, que dans une grande ville cosmopolite comme New York, par exemple. Les Américains reconnaissent volontiers que les Noirs sont de nature douce, aimable et gaie, mais d'ici, ils ont tous les vices. Pour caractériser la bestialité des vices nègres, on aime en Amérique à raconter une petite histoire inventée à plaisir. Un nègre se présente un jour chez un pharmacien, lui demande un grog au whisky, car dans ce pays béni, les pharmaciens vendent aussi des alcools, ce qui facilite singulièrement l'ivresse dominicale, tant des nègres que des blancs, en dépit des ordonnances sur la police des cabarets. Distrait, le pharmacien prend une de ses fioles, confectionne la boisson et la sert au moricaud qui avale d'un trait, paie, semble enchanté, s'en va. Après son départ, le pharmacien, épouvanté, s'aperçoit qu'au lieu de whisky, il a mis dans le grog de l'acide sulfurique. Et il se désole à l'idée d'avoir versé à un homme, aussi nègre qu'il soit, une mort atroce. Or, quelle n'est pas sa stupéfaction quand, le lendemain, il voit revenir son client, de la veille, bien frais et dispos, et lui demanda encore un grog au whisky. Cette fois, le pharmacien fait un véritable grog au whisky que le nègre ingurgite. Mais il paraît fort mécontent et réclame. « Quoi, c'est whisky sans monsieur, pas bon. Celui d'hier était bien meilleur. On sait les abominables lynchages qui journellement punissent les attentats auxquels les nègres, pourtant bien prévenus, se laisse entraîner. Pour chasser à travers la campagne, le coupable, enfin saisi et pendu à une branche, sert de cible au revolver de l'honorable société, bien heureux encore quand il n'a pas été enduit de pétrole et allumé en manière d'auto-da-fé. Cette horreur de l'Américain pour le nègre s'étend à toute personne affligée de quelques gouttes seulement de sang noir. On dit communément que le mulâtre est pire que le nègre, qu'il a tous les défauts des deux races sans aucune de leurs qualités. Et parmi tant d'autres talents, les citoyens des États-Unis possèdent un degré extraordinaire, celui de découvrir la tare nègre chez des personnes qui ne sembleraient exemptes à un œil moins exercé que le leur. De charmantes jeunes femmes blondes, aux yeux bleus, mais aux ongles imperceptiblement violacés, aux cheveux à peine ondulés, au teint un soupçon plombé, qui chez nous serait entouré de galanterie et d'admiration, se voient de l'autre côté de l'Atlantique, tenues à distance comme des lépreuses. Aussi les nègres tentent-ils de se défendre. Ceux d'entre eux qui ont de la culture encouragent de tous leurs efforts l'œuvre entreprise par Booker Washington, qui a créé à Tuskegee une université admirablement organisée et installée où ils mettent en pratique son principe que le noir doit devenir un membre utile de la société à condition qu'on l'instruise et qu'on lui laisse le temps de faire son évolution. Combien de siècles aura-t-il fallu aux Blancs pour faire la sienne? Monsieur Booker Washington, après s'être longtemps heurté à l'hostilité de ses frères de race, a fini par gagner leur confiance. En son université modèle, il les élève, les instruit, leur apprend divers métiers, en fait des hommes et des travailleurs. Les autres ont fondé des sociétés secrètes dans le genre de la Camorra et de la Mano Negra, où il reste quelque peu de cette mystérieuse franc-maçonnerie des vaudous, bien connue en Haïti et à portée de la sombre mer Afrique. Ils se reconnaissent à certains signes secrets et, se laissant plus volontiers allier à leurs mauvais qu'à leurs bons instincts, ils font de leurs contemporains tout le mal qu'ils peuvent. Pour en finir avec cette irritante question, il y a une école qui préconise le transport en masse de tous les nègres de l'Union en quelques terres de l'Afrique dont on leur ferait une patrie. Mais cette école compte sans son hôte. Les nègres sont pénétrés d'un profond patriotisme américain et n'entendent pas quitter le sol qu'ils aiment et qu'ils prétendent mieux convenir à leur tempérament qu'aucun autre. La solution d'un pareil problème n'est pas commode. Il est cependant une occasion où le nègre retrouve toute la sympathie du véritable Yankee, du terrible Yankee. C'est quand il se présente à lui sous la figure charmeresse du minstrel, sorte de personnage lyrique, tantôt grotesque et tantôt touchant, et qu'il chante d'une voix superbe, avec un goût charmant, avec une fantaisie étourdissante. C'est quand il est tour à tour tendre ou gai et populaire par toute l'Union. For we are the song of the whole Kentucky home, off of the whole Kentucky home, far away. Ou bien, it rained all right the day I went, but the weather, it was dry. Et ici, on l'adore, on l'applaudit, c'est du délire. Les nègres ont une disposition naturelle pour la musique, et M. Jules Huret, qui lors de son si intéressant voyage en Amérique les observa beaucoup, a souvent remarqué que des cireurs de bottes ou des garçons en veste blanche et pantalon sombre qui une fleur à la boutonnière servent dans les wagons-restaurants, non sans quelque apathie, semblaient s'animer et prendre de l'activité pour peu que se fît entendre un orchestre. S'accompagnant sur le banjo, sorte de guitare aux cordes tendues sur un tambourin et qui descend directement des instruments semblables que les sorciers grattent frénétiquement dans la brousse africaine, ils sont incomparables. Mais si les Américains aiment la musique de nègre, ils la veulent bonne. C'est ainsi que dans une petite localité du Far West, fréquentée seulement par des mineurs et par des cowboys, le noir qui, à l'église, tient l'harmonium avec plus de bonne volonté que de compétence, s'est vu contraint de suspendre à son instrument un écriteau ainsi conçu. On est prié de ne pas tirer sur l'organiste, il fait ce qu'il peut. Quoi qu'on puisse le reprocher, il est juste de dire ici en terminant que les nègres, ces enfants arriérés de l'humanité, ont, comme on dit, les qualités de leurs défauts. S'ils sont prodigues et imprévoyants, ce sont des cœurs d'or qui n'ont rien à eux et donneraient leur dernier sou pour venir en aide à leurs amis. Cette qualité-là est peut-être la plus belle de toutes et en contient en germe beaucoup d'autres. Au lieu de les traiter alternativement comme de vieux civilisés et comme des parias, si les Américains s'efforçaient de substituer en ces noirs le sentiment de la dignité humaine à la vanité puérile, s'ils les instruisaient patiemment, ils finiraient peut-être par en faire de précieux collaborateurs dont les sentiments généreux et l'âme artiste viendraient heureusement tempérer l'esprit positif, mercantile, égoïste, béotien et, quoi qu'on en dise, étriqué, des constructeurs de gratte-ciel.